Bonjour et bienvenue sur CFM pour cette nouvelle émission des Messagers du Cheval. Première émission de l'année, que je vous souhaite à toutes et à tous la meilleure possible. Depuis le 23 novembre, l'Institut du Monde Arabe à Paris propose une exposition intitulée « Sur les routes de Samarcande, merveilles de soie et d'or ». Celle-ci nous permet d'admirer les trésors de l'Ouzbékistan qui sortent pour la première fois de leur pays, notamment ceux des khans et émirs de cette région qui avaient couvert littéralement leurs chevaux des matières les plus précieuses. Cette émission est donc une invitation à découvrir les splendeurs de cet univers et les races des chevaux montés et élevés par les Ouzbeks. Tout d'abord, situons cette région du monde. La République d'Ouzbékistan se situe en Asie centrale et couvre le territoire de la Transoxiane, nom historique de la région, située à la croisée des routes de la soie, au-delà du fleuve Oxus, le nom grec de la Mou Daria. C'est une région qui offre des paysages variés, des montagnes au désert, en passant par les plaines et les oasis fertiles. Carrefour des civilisations entre les peuples des steppes, de l'Inde, de la Perse et de la Chine, l'Ouzbékistan est héritier de royaumes et d'empires puissants, nés de cette position stratégique unique, tout particulièrement les empires turcs, perses, arabes, mongols et russes. Si l'on survole le temps, on voit que de grands conquérants ont occupé ce territoire. Alexandre le Grand conquit la région appelée Bactriane en 327 avant Jésus-Christ, alors qu'elle appartenait à l'empire perse des Achéménides. Puis ce fut au tour des Parthes, des Perses, des Arabes, des Turcs et des Mongols. En 1220, le grand conquérant mongol Gengis Khan prit la ville de Samarcande, plaque tournante de la route de la soie entre l'Europe et la Chine. C'est aussi sur ce territoire que naquit le 8 avril 1336 Timurlang ou Tamerlan, ce chef de guerre qui allait conquérir la Perse et l'Inde et qui fut émir de Transoxiane. Son empire fut vaincu en 1507 par les tribus ouzbèques de la dynastie musulmane mongole des Chabanides. Le nom ouzbek vient de celui de Ozbeg, un prince mongol vivant au XIIIe siècle qui implanta l'islam dans la Horde d'Or, cet empire turco-mongol qui contrôla les steppes russes au XIIIe et XIVe siècle. Au XVIe siècle, deux puis trois khanats se constituèrent en Transoxiane, celui de Boukhara, celui de Khiva et celui de Kokland. Pour mémoire, un khanat est un pays soumis à l'autorité d'un khan, qui est le titre porté par celui qui exerce un pouvoir politique et religieux dans le monde mongol ou soumis à l'influence mongole. À partir de 1839, la région tombe petit à petit aux mains de l'Empire russe, qui profite des dissensions entre khans, tout en cherchant à prendre de vitesse les Anglais qui cherchent à étendre leur influence sur cette partie du monde depuis l'Afghanistan. Une rivalité qui s'étend à l'élevage des chevaux, puisqu'un rapport de la direction des haras impériaux russes note en juin 1914 « Les Anglais ont remarqué la noblesse du cheval teke et chaque année, leurs agents achètent des étalons et les exportent par la Perse et l'Afghanistan. Ces derniers temps, nos voisins occidentaux ont également prêté attention au cheval teke. Les Prussiens ont obtenu pour leur hara de Trakenen un étalon qui avait reçu un prix à l'exposition équine de Piatigorsk en 1912 et ils tentent d'acheter des étalons et des poulinières teke. La constance de cette race et son indéniable capacité à améliorer les autres races sont visiblement la cause de cet intérêt porté par les amateurs et les connaisseurs de l'élevage en Europe de l'Ouest qui acquièrent les étalons et les poulinières teke à des prix élevés. Dans un avenir proche, tous les meilleurs exemplaires de cette race auront été exportés à l'étranger si nous ne prenons pas des mesures urgentes afin de nous procurer ces chevaux et de créer une pépinière ou un haras d'État consacré au teke pur sang. Après avoir vaincu les forces nationalistes et destitué l'émir de Boukhara, les Soviétiques créent en 1924 la République socialiste soviétique d'Ouzbékistan. En 1991, face à la disparition programmée de l'URSS, l'Ouzbékistan proclame son indépendance le 31 août. Revenons maintenant à la période qui fait l'objet de l'exposition. En 1785, la dynastie des Manguites est au pouvoir avec à sa tête Shah Mourad. Ne pouvant prétendre au titre de khan, ce dernier crée alors l'émirat de Boukhara et règne en tant qu'émir jusqu'en 1800. Shah Mourad cherche à centraliser le pouvoir sur les provinces hors de Boukhara. La population, composée de Turkmènes, Ouzbeks, Arabes, Tadjiks, Afghans, Persans, Indiens, étant très variée. La religion musulmane est certes fédératrice, mais le sentiment d'identité repose principalement sur les us et coutumes. L'émirat décide alors de relancer d'anciennes coutumes artisanales communes à ces populations bien différentes. L'élevage de vers à soie est rétabli dès la fin du XVIIIe siècle et de nouveaux textiles sont créés, incorporant des symboles connus de tous. Les émirs de cette dynastie se révèlent de véritables mécènes pour les artisans. Des ateliers de confection sont créés et donnent naissance à un artisanat de luxe. Les pièces conçues pour le dernier émir, Mohammed Alim Khan, présentées dans la section de l'exposition intitulée « Pouvoir et apparat », témoignent de la richesse de leur ouvrage. Sous protectorat russe depuis 1868, Boukhara voit sa production agricole nettement augmenter, en particulier celle du coton et de la soie. Cela donne notamment la confection de pièces textiles phares comme les chapanes, ces manteaux amples et longs que portaient historiquement les cavaliers, brodés de soie et d'or. Un atelier dédié aux pièces les plus importantes a été créé au sein de la citadelle Ark de Boukhara, lieu de résidence de l'émir durant le règne de Muzaffar ed-Din 1860-1885. Le tournant du siècle voit Boukhara devenir la capitale de l'artisanat de la broderie d'or, le zardozi. Les émirs portent des robes cousues de fil d'or et les parures de leurs chevaux sont à leur image. Comme nous venons de le voir, ce territoire a été conquis à dos de cheval, puis occupé par des populations nomades. Le cheval joue également son rôle dans la vie économique de la région en transportant des marchandises sur la route de la soie. Il fait donc partie du mode de vie et de l'identité ouzbek. Et à la cour de Boukhara, le cheval est roi. Son importance se traduit par la confection et le maintien d'un artisanat spécifiquement dédié à ce monde équestre. Avant de découvrir quel est cet artisanat et quels sont ses chevaux, je vous propose d'écouter un peu de musique traditionnelle ouzbek enregistrée lors du festival Détour de Babel en avril 2016.
Yavrum kayda,
kayda yo, kayda.
Yavrum insa uç mayda,
mayda yo, mayda.
Mayda saç yavrum kayda,
kayda yo, kayda.
Mayda saçlar yaraşar, mayda yo, mayda. Kızlar bizge karaşar. Mayda ya, mayda, yavrumning sochi mayda.
Mayda ya, mayda.
Mayda soch yavrum qayda.
Qayda ya, qayda.
Yavrumning sochi mayda.
Mayda ya, mayda.
Mayda soch yavrum qayda.
Qayda ya, qayda.
Mayda ya, mayda, mayda ya, mayda, mayda ya, mayda, ey mayda ya, mayda.
Revenons dans le passé à la cour de Boukhara. L'historien Andrei Nevetsky écrit dans son livre The Rules of Boukhara : chaque monture est équipée d'une selle turkmène avec des étriers forgés en or et en argent. De couteaux tapis de selle sont brodés de fils de soie et d'or. La bride, les cuirasses et les croupières sont richement garnies de plaques décoratives, également en or. L'homme et le cheval semblent ne faire plus qu'un, tant la richesse et le luxe de son archnarchement reflètent ceux de son cavalier. L'émir fait régner sa loi, le harnachement des chevaux des hauts fonctionnaires de la cour dépendant de ses ordres. Tapis de croupe en velours brodé d'or, selles en bois peint à la main avec des teintures naturelles, tapis de selles sont complétés par une panoplie luxueuse d'harnachements, de véritables bijoux en argent sertis de turquoise, de coralline et d'émail, des ornements de crinière, comme celui présenté à l'exposition, en cuir, métal, turquoise, cuivre, vert et argent. Chacun de ces éléments est élaboré par des corporations spécifiquement dédiées au travail du bronze, d'orfèvrerie, de menuiserie, de tannerie et de broderie d'or. En même temps que l'émir, revêtu de son manteau brodé et de ses armes, les chevaux portent tout un équipage très lourd, brodé avec du velours, de la même façon que les chapans, explique Yaffa Assouline, commissaire général de l'exposition. De la fin du XVIIIe siècle jusqu'au début du XIXe siècle, les villes de Boukhara, Namagan, Marghilan et Samarkand sont les seules à maîtriser le procédé de fabrication du velours de soie. Les selles en bois, ornées de motifs floraux stylisés, sont souvent garnies de plaquettes d'os incisées transversalement pour faciliter leur mise en forme. Le siège, le pommeau, la face supérieure des montants et le trousquin sont recouverts d'écorces de bouleau peintes et vernies. Le pommeau, élevé, est couronné par une saillie à laquelle on donne parfois le nom de tête de canard. Elle sert à attacher la bride et donc à immobiliser le cheval en tirant sa tête en arrière sans que le cavalier ait à chercher un piquet pour l'attacher. Les selles pouvaient être recouvertes d'un tapis ou d'un coussin, offrant ainsi plus de confort tout en protégeant la décoration peinte et vernie. Cette opulence s'étend également à l'élevage de chevaux. Si les purs sangs sont réservés à l'émir et aux cadeaux diplomatiques, les écuries de la cour ne comptent pas moins de 17 races différentes de chevaux, dont les Lokai, des Akaltékés et des Turkmènes, pour ne mentionner que les plus connus. Le Lokai est un cheval oriental dont la race s'est développée au sein de la tribu ouzbek Lokai, dont il porte le nom. Son origine est obscure, il descendrait des chevaux des Hittites, comme le suggère son lourd squelette et son crâne large, et des chevaux des Mongols. Originaire des régions montagneuses du Tadjikistan, il peut vivre à 2000 mètres ou 4000 mètres d'altitude. C'est donc un cheval solide, résistant, endurant, de petite taille. Toisant entre 1,42 m et 1,50 m au garrot, il est le plus petit cheval d'Asie centrale. Au XVIe siècle, les tribus commencèrent à le croiser avec des Lomouds, des Akaltékés, des Karabaïrs et des Arabes. Il peut être utilisé pour la chasse, l'endurance ou comme cheval de bât. Aujourd'hui, il est toujours populaire comme monture des cavaliers qui participent au Kokpar, un jeu national ouzbek proche du Bouskatchi. Nous avons évoqué la Kalteke dans l'émission que nous avions consacrée aux chevaux du Turkménistan en 2018. Il serait apparu 5000 ans avant notre ère en Asie centrale. Il a été très peu croisé, comme le montre l'étude des restes de chevaux trouvés dans les tombes scythes. Ce cheval doit son nom à la vallée de Lakhal, près de Ashgabad, la capitale du Turkménistan, et à la lignée des Tékés, une des plus puissantes tribus turkmènes. C'est un cheval longiligne taillé pour la course qui sera utilisé par ses cavaliers pour des raids guerriers menés sur les tribus qui vivaient du pillage des caravanes qui empruntaient les routes de la soie. Il descendrait également des célèbres chevaux célestes élevés dans la vallée du Fergana, dont la plus grande partie est en Ouzbékistan, chevaux tant convoités par les empereurs chinois, comme nous l'avons vu dans notre émission consacrée aux chevaux dans la Chine ancienne. Le cheval turkmène original a lui disparu, même s'il a laissé des traces chez la Kalteke et le Lomoud. Les Turcs l'avaient élevé pour en faire un cheval de guerre, capable de résister aux conditions de vie en Asie centrale. Il était rapide, endurant, avec une belle robe, un dos long et de petits sabots, afin de pouvoir se mouvoir sur le sable des déserts d'Asie centrale. Plus élancé que l'arabe, le cheval turkmène est souvent décrit comme le lévrier des races de chevaux. Sa minceur offrait aux archers davantage de facilité pour pivoter rapidement malgré sa haute taille. Comme les bédouins de la péninsule arabique, les Turcs d'Asie centrale vivaient dans une grande proximité avec leurs chevaux dont ils s'occupaient comme des membres de leur famille. Bayeler Turk, l'un des étalons fondateurs de la race des pur-sang anglais, avait été capturé par le capitaine Bayerley au siège de Bouda en 1686 après la défaite des Turcs. Longtemps considéré comme un arabe, il est aujourd'hui plus probable qu'il soit d'origine turkmène. Comme l'illustre bien cet exemple de Bayeler Turk, les Européens et plus tard les Soviétiques ont eu tendance à rassembler en grandes catégories les races de chevaux. Ainsi, les chevaux orientaux étaient qualifiés d'arabes et les petites races d'Asie centrale étaient rattachées à des territoires nationaux à l'époque de l'URSS. Pourtant, quand on regarde les écrits anciens, on peut voir que les choses ne sont pas si simples. Ainsi, en 1874, dans le seul khanat de Kiva, Ibrahimov répertoriait les types de chevaux suivants. Les voici avec ses commentaires. Arabie, race importée d'Arabie par la Perse, un bon galop endurant, ne vieillit pas vite. Argmak, ressemble à nos chevaux des Haras, mais plus fin et ne convient pas pour les trajets dans le désert. Kala, rassemble toutes les qualités, endurant et rapide à la fois. Sas ou Turbaïjin Sazi, fort et endurant, mais pas particulièrement rapide. Nournias, cheval de Laal, élevé par les Yomoutourskoussi, beau et fin, infatigable dans le désert. Akblak, élevé par les Yomout Ouzouk, également beau et fin, convient pour les trajets dans le désert, la plupart sont de robe grise. Ketchemanata, élevé par les Yomout Oukouz, léger et endurant au galop. Tcharva, élevé par les Yomout Oukouz, cheval ordinaire qui convient aux travaux agricoles. Salsi, élevé par les Yomout Salak, cheval hirsute au crin long. Boudan, élevé à Kiva, issu du croisement entre un étalon Argmak et une jument kirghize, galopeur endurant. Karachab, importé par les Tekés de Merv, beau cheval élancé, vient de la race arabe à un bon galop. Kudababa, vient de Merv, très prisé des Tekés. Aksunkar, élevé par les Kodir, beau coursier de robe, souvent grise. Son nom qui signifie faucon blanc témoigne de sa force et de sa vitesse. Oudamergen, élevé par les Kodir, grand et fort mais lourd. Poustli, cheval de l'écurie du camp, grand, fort et endurant, à la peau épaisse. Karakouz, cheval de l'écurie du camp, de la race Argamak, fin, extraordinairement beau, souvent de robe noire. Par ailleurs, les étalons des écuries de l'émir de Boukhara, qu'il offrait en cadeau, contribuèrent également à améliorer en croisement les races rustiques. Voilà, cette émission touche à sa fin, mais vous avez jusqu'au 4 juin pour aller découvrir les quelques 300 pièces uniques exposées au Musée du Monde Arabe. Bonne semaine à tous et à toutes, et à bientôt pour une nouvelle émission.